Il faut aller à gauche de la croix au niveau du point GPS.
Allô?
Oui.
Ouais. On vient de prendre le chemin là de. On est quasiment arrivé au point GPS et on est en train de regarder là ta photo.
J'entends pas très bien, mais ouais, c'est bien à gauche sur la piste que j'ai montré, t'as pas ça monte bien.
Et on devrait vous voir, c'est ça?
Attends,
genre, il n'y a pas de.
Non, mais. Est-ce que c'était pas plus tôt?
Attends, parce que là, on est sur une espèce de petite voie. Il y a un petit parking avec une voiture là qui est garée. Mais là, ça va carrément dans la forêt, quoi.
Faut vraiment prendre le point GPS que j'ai donné, moi, sur le groupe.
Ah,
parce
putain.
Que, si on met un point GPS, en fait, ça fait complètement faux. Parce que ça fait juste t'amener sur une autre route.
Ok, bon, bah écoute, je regarde, j'espère qu'on s'est pas gouré.
Ouais, ouais, voilà.
Merci.
Toujours en
ouais. On s'est gouré alors, c'est pas ça. On est pas du tout au bon endroit, je pense.
Et non, on n'était pas au bon endroit. Il faut dire qu'on était trois Français dans cette voiture. Il y avait Soriana, l'Arlésienne, Mathilde, la Parisienne, et moi, Loïc, le Lyonnais, et nos données GPS étaient limitées par le fait d'avoir passé la frontière suisse. J'avais embarqué vers 5h30 du matin dans la voiture de Soriana. Nous avions fait tous les trois connaissance en nous accordant sur le fait que personne n'aimait les réveils matinaux et que ce trajet avait un goût de départ en vacances, mais sans les brimades parentales. Près de 5h plus tard, on touchait au but, mais on cherchait encore le point de départ du refuge Remix.
Bonjour! Je me mets comme ça?
Ouais, je pense, ouais.
Ouais. Hello, merci, désolé!
C'est comme ça, hein?
C'est
pas
rien,
c'est
bon.
Salut,
ça va?
Salut!
Salut!
Allez!
On est là?
Bonjour! C'est quoi, t'es frontalier?
Frédéric dirige une entreprise du secteur des énergies renouvelables. Catherine est architecte scénographe. Kylian est doctorant et étudie les pratiques des chasseurs des montagnes valaisannes. Chiara fait du conseil en développement. Quant à moi, on m'a demandé d'être là pour documenter cette expérience et pour donner un coup de main si besoin. À vrai dire, à ce stade-là, mon rôle n'est pas encore clair pour moi. En tout, nous sommes 34 à avoir rendez-vous à la prise d'eau de Salena pour entamer une ascension de quelques heures jusqu'à la cabane où nous attendent déjà les organisateurs de cette troisième édition du Refuge Remix, une édition consacrée à la thématique des communs en montagne. Les Helvètes parlent de cabane, les Français de refuge, mais l'objectif est le même pour tout le monde, une construction de bois perchée à 2691 mètres d'altitude dans le massif du Mont Blanc. Pour l'atteindre, il nous faudra avaler 1300 mètres de dénivelé.
T'en débarrasses quand tu utilises la longe. Ou sinon, tu la mets plus derrière, tu vois, pour pas qu'elle te gêne.
Ok.
De toute façon, tu vas pas être suspendu dessus, hein. C'est juste une sécurité.
Super, merci.
Mais de rien.
T'as les bonnes chaussures, donc ça va.
C'est déjà ça. Je suis pas venue en converse.
Non, on est
et
pas
vous avez commencé votre journée il y a un moment, ouais.
À 5h30.
On va aller doucement.
On est parti, là.
On est parti. Ouais. Du coup, on peut y aller. On en a pour 1100 mètres de dénivelé. Disons, en comptant large, 3-4 heures. On n'est pas pressé. On nous attend avec du thé chaud et une tarte aux pommes faite par les gardiens. Donc, on sera très bien là-haut. Et voilà.
L'ascension commence et de petits groupes se forment en fonction des rythmes de marche de chacun. Devant, les amoureux de la montagne avancent avec aisance. Derrière, les citadins découvrent leurs limites pulmonaires.
On traverse une cascade par un petit ponton métallique. Donc il est midi, on devait commencer l'ascension à 10 heures, donc on a 2 heures de retard. Mais on devait la commencer 200 mètres plus bas. Donc on va faire que 1100 mètres de dénivelé au lieu de 1350. À voir.
Mais pour tous, le décor de roches et de glace ouvre le dialogue et les questionnements.
Tu cherchais quoi avec tes lunettes?
Je regarde au fond là-bas. Ces sommets me sont mystérieux, je les connais pas. Alors j'essaie de reconnaître la forme pour essayer de deviner dans quel massif ils sont.
Quelque chose Horn, je pense. Sûrement Horn à la fin.
Ouais.
Et alors tes estimations, c'est que c'est quoi?
Bah, peut-être les prémices de l'Oberland.
Ça pleut.
Ah, ça pleut. Ah bah.
Ah, il pleut.
Ça tire fort dans les jambes. Ça tire fort dans les jambes.
Bah, là, c'est même les mains.
Mathilde, tu peux me raconter la montée?
Bah, la montée, ça s'est bien passé. Une belle progression dans la roche.
Menteuse.
Non, c'était un peu technique quand même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de passages avec une chaîne et des, comment ça s'appelle, des pieds métalliques où tu dois vraiment faire corps avec la roche pour pouvoir progresser et monter. Et j'avoue qu'il y a eu un ou deux moments où voilà, quand tu dois à moitié, enfin pas contourner, mais tu vois, en latéral.
Sorry, y en a un commentaire. Tu veux compléter?
Non, non, c'était chaud, hein. Tout le long de mon corps est passé dans mon t-shirt.
Vous attendiez à ça?
Non, je m'attendais à rien.
Je m'attendais à ça, voire à pire. Mais ouais.
Moi, je m'attendais pas à ça. Hein. Je pensais qu'il serait un petit peu plus... un peu plus sympa avec nous.
C'est Christophe qui nous a dit quoi, là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu seras le...
Ah, le rapport d'étonnement?
Voilà, le rapport d'étonnement.
Ah, c'est ouais. Ça. Je suis étonné. Hein. Très étonné.
Je suis très étonné.
Toi, c'est Christophe, c'est ça?
Ouais.
Et tu es?
Moi, je suis un des deux directeurs de ce projet de recherche avec Philippe Bourdeau. Donc, je suis professeur à l'Université de Lausanne. Je travaille à Sion, il y a une antenne. Et puis, je travaille sur le tourisme en général. Et puis, dans ce cas-là, en particulier sur les, un petit peu l'évolution de ces cabanes ou refuges de montagne, notamment sous l'impact du changement climatique et puis aussi une nouvelle clientèle qui arrive, qui n'a pas nécessairement une connaissance des codes de la montagne. Et voilà, et c'est un petit peu l'enjeu de ces discussions ces jours-ci, de voir ce qu'on peut trouver comme solution pour l'avenir.
Ah oui, aussi joyeuse et oxygénante que puisse être cette escapade nature, nous sommes ici avec une mission. Le dérèglement climatique touche les sommets alpins deux fois plus vite que les plaines. Le paysage de la montagne change, tout autant que ses usages et les risques qui en découlent. L'Université de Lausanne et l'Université de Grenoble-Alpes, qui partagent les programmes Eutops Tour et Refuge Sentinelle, organisent donc depuis 3 ans une réflexion pluridisciplinaire autour des nouveaux usages de la montagne et de ses cabanes. Inspirés des méthodes de design thinking déjà plébiscitées dans des domaines plus artistiques, à l'image des muséomix, les Refuges Remix proposent à des personnalités d'horizons très variés d'apporter leur regard, parfois expert, parfois décalé, aux enjeux de la montagne. On voit le gîte là-haut, à 600 mètres au-dessus de nous. Au printemps 2023, un énorme éboulement a eu lieu à Salena. 800 000 mètres cubes de pierre se sont arrachés à la paroi des pointes des Planeureuses. La cabane de Salena, qui se trouve juste en face, à l'embouchure du glacier, s'en est trouvée coupée du monde. Aujourd'hui, des travaux d'aménagement ont permis de retrouver un nouveau sentier vers la cabane, à travers les énormes masses de pierre. Cette cicatrice béante dans la montagne a probablement influencé le choix de Salena pour la tenue de ce Remix 2024.
Du coup, Jean a organisé cette édition de Refuge Remix.
Bon, avec toute l'équipe d'organisation, donc, que je remercie, et aussi Mélanie qui n'est pas là. Mais donc, on voulait organiser justement ce remix, un troisième remix en Suisse. On se demandait un peu quelle cabane, on avait plusieurs choix, et on s'est dit, en fait, Salena, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pertinent. Alors, je vais vous expliquer un peu le pourquoi de ce choix-là, parce que ça va justement donner des éléments de contexte. Alors, vous avez dû le voir en montant, à gauche, sur la moraine, l'énorme éboulement, aussi les traces d'anciennes laves torrentielles sur sentier. Là, on voit le glacier de Salena qui recule, malheureusement. La face nord de l'aiguille d'Argentière en glace. Le col du Chardonnay difficilement accessible, voire plus du tout maintenant. Donc là, voilà, c'est tous ces bouleversements liés au changement climatique qui impactent la majorité des cabanes. Ça, c'est une constante qu'on retrouve dans toutes les cabanes. Ça impacte fortement les cabanes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le changement climatique. Il y a aussi l'inflation qui fait que c'est de plus en plus cher de construire en altitude. Il y a les normes qui s'appliquent maintenant en cabane, les normes de la vallée qui montent en cabane, qui fait que c'est de plus en plus dur aussi pour les gardiens de gérer une cabane. Donc ça devient très compliqué. Et en parallèle de ça, on voit que la montagne attire. Il y a de plus en plus de monde, mais un public qui se diversifie. Le refuge, c'est plus seulement pour les alpinismes, mais la cabane, ça devient vraiment un endroit où il y a des familles, des randonneurs, des vététistes, des trailers, donc un public de plus en plus varié, mais qui ont aussi des exigences différentes. C'est-à-dire qu'un alpiniste n'a pas envie la même chose d'un refuge qu'une famille. Et donc ça, pour justement un gestionnaire, le club alpin suisse, ou pour des communes qui ont des refuges, c'est pas facile à gérer quel niveau on veut. Est-ce que justement on veut garder un aspect très sobre, justement, ce qui, je pense, qui est très important, mais en même temps répondre à une certaine exigence. Donc c'est pas facile de voir qu'est-ce que la cabane de demain. Et tout cela, en fait, met un petit peu en pression aussi, en tension, pardon, le modèle économique d'une cabane. Comme je l'ai dit, c'est cher. Et là, à Salena, on a un peu un exemple, un peu original, justement, d'une réponse à ça. C'est qu'on est sur une cabane où il y a une fréquentation importante, je crois, de l'ordre de 800 unités, c'est ça ? Voilà. Mais qui n'est pas suffisant, peut-être, pour qu'un gardien puisse gagner vraiment sa vie. Donc là, il y a une idée super originale du club alpin suisse de Neuchâtel, de se dire, bah, on va garder ça bénévolement. Et c'est une réponse déjà justement un peu à cette pression économique qui interroge. Et l'idée justement dans ce remix-là, c'est justement questionner ça. C'est aller peut-être un peu plus loin. Est-ce que finalement les usagers peuvent aussi un peu mettre la main à la pâte, réfléchir en fait à la cabane comme un commun. Donc ça, c'est vraiment la ligne qu'on va suivre durant ce défi.
On va avoir plein d'idées, on va constituer 5 équipes, on va fabriquer 5 prototypes qui vont être tous plus géniaux les uns que les autres. Certains vont avoir une vie, j'y pense parce qu'avec Philippe, on était dans une école de design là, qui a déjà repris les prototypes du précédent remix. Et il ne faut pas oublier de dire que tout ce qu'on fait là, on le fait sous licence Creative Commons. C'est-à-dire que tout appartient à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, au contraire. Ça veut dire que si demain on souhaitait exploiter une idée, on pourrait le faire justement parce qu'elle est ouverte. Donc on est bien là pour... avoir des idées, prendre plaisir à voir comment les autres s'en emparent et les voir évoluer. C'est pas une compétition, c'est vraiment un temps où on est d'abord bien pour soi et puis on essaye de passer un bon moment aussi ensemble. C'est vraiment pas une compétition.
Avoir cette cohorte inégale, dans ses savoirs autant que dans son aisance en montagne, on pourrait penser que le Refuge Remix est un exercice de style, un happening de la pensée libre dont il ne restera rien une fois les bâtons de marche rangés. Au moment où je parvenais enfin à la cabane, après plus de 4 heures d'une marche éreintante, je n'étais pas certain moi-même qu'il en serait autrement. L'effort physique m'avait fait oublier ma mission et mon micro durant quelques instants. Heureusement, Célia et Christophe, les concepteurs du format Refuge Remix, n'ont pas laissé de place au doute. Premier exercice, adopter un point de vue, s'imprégner, partager une pensée avec le groupe. Tout ça grâce à un petit jeu de post-it.
L'idée, c'est de faire un tour des présentations, qu'on apprenne à se connaître mutuellement avant que vous soyez répartis en équipe. Donc on va demander à chacun, à tour de rôle, de venir ici, de donner son prénom et de donner votre post-it.
Alors, donc moi c'est Elodie et donc moi je suis allée là-haut. On a un magnifique, d'ailleurs je vous conseille, point de vue sur le glacier. Et le premier mot qui m'est arrivé à monter à l'esprit, c'est le mot confluence, parce qu'on a vraiment l'impression que là c'est un seul glacier. On a l'impression qu'on a une espèce de confluence qui arrive là comme ça et que maintenant il est tout morcelé ce glacier. Et ça m'a fait penser à 4 autres mots. Les mots de persister, s'adapter, disparaître ou apparaître. Parce qu'en fait, dans ces écosystèmes qui sont hyper fragiles, il y a plusieurs solutions. Et pour moi, ce sont ces solutions-là. Soit on persiste, on essaye de continuer à survivre, d'être là. Soit on s'adapte, mais pour ça il faut avoir le temps. Soit on disparaît. Et on voit aussi qu'on a aussi des nouvelles espèces, de nouveaux écosystèmes qui apparaissent, et donc il y a quand même toujours un espoir. Voilà.
Moi, je m'appelle Célia Bonnet-Ligeon. Ma profession actuellement, c'est animatrice de Refuge Remix. Moi, je travaille sur des projets numériques d'habitude. Et en 2019, Philippe est venu me chercher pour adapter le format Muséomix au contexte refuge. Et on a fait une première édition au refuge du Plan de Villard d'Arène. Quand Philippe m'a présenté l'idée, c'était vraiment le principe d'inventer les refuges de demain. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas trop pensé à ça, mais effectivement, des lieux comme les refuges évoluent en même temps que le reste, parce que c'est soit des phénomènes de société, parce qu'ils viennent incarner des pratiques, des temps de loisirs, enfin tout ce qui est temps libre, loisirs, même le sport, etc. En fait, ça peut être beaucoup impulsé par nos politiques culturelles, nos politiques publiques, etc. Donc là, on voit quand un club alpin s'en va construire une cabane ou un refuge à tel endroit, c'est aussi pour répondre à cette demande de société. Donc voilà le pourquoi on a, je pense, besoin de le faire évoluer en même temps que nous tous, en fait. Ou alors un truc qui veut... Ces méthodes, elles viennent du design thinking, c'est-à-dire des techniques pour à la fois produire des idées, les étendre et les faire converger vers du prototypage concret. On s'appuie sur des méthodes type double diamant que les designers connaissent très bien. On va alterner des phases de divergence et de convergence pour... dans certains moments, agréger le plus possible d'idées, et c'est pour ça qu'on encourage le maximum d'idées qui semblent a priori impossibles ou impensables, ou trop loufoques, ou pas désirables, etc. Et après, on va resserrer sur justement les idées qui sont désirables, qui sont faisables dans le laps de temps donné. Et ça, cette alternance d'ouverture, de fermeture, on va dire, on peut le refaire plusieurs fois au cours de l'événement pour que les équipes, elles itèrent en permanence jusqu'à la livraison finale de leur prototype. Et sur cette édition en particulier, la particularité, c'est qu'on est allé chercher des personnes qui étaient expertes des communs. Et à la base, on avait conçu, on s'était projeté sur des profils de juristes, de gestionnaires de tiers-lieux, de gestionnaires de clubs. En fait, toutes les personnes qui ont une expérience dans la manière de faire vivre une communauté et de mettre en place des règles pour le commun. De la
nature, tu vois. Après-demain, quand on redescend, qu'est-ce qu'elles deviennent ces idées? Qu'est-ce que deviennent les prototypes? C'est quoi la suite?
Alors pour l'instant, des deux éditions précédentes, les prototypes sont toujours restés in situ, en montagne, pour des raisons pratico-pratiques qui sont que le plus souvent on ne peut pas les démonter, les redescendre, parce que c'est assez volumineux, mais aussi et surtout parce que les gardiens nous le demandent, en fait. Donc, y a des prototypes qui vont être utilisables tels quels immédiatement, et qui pourront faire la saison prochaine ici, pourquoi pas. Ici, on est en fin de saison, donc là, les gardiens préparent la fermeture, c'est un peu différent, mais dans les deux autres éditions, les prototypes sont restés en place, et on a eu des retours des gardiens en fin de saison pour nous dire que ça avait très bien marché.
Des explications de Célia et Christophe, je retiens un principe simple. Les idées sont comme une matière qu'il faut travailler dans un mouvement d'aller-retour. D'abord, une ouverture vers l'extérieur, puis un resserrage, et ainsi de suite. Le travail qui va nous occuper durant les deux prochains jours sera fait de temps d'isolement, puis de partage, de mise en commun, puis de reprise en petits groupes. Et ça tombe bien, car la question du commun, de ce qui peut être partagé de tous, de ce qui peut se transmettre, même se transporter, on la retrouve dans l'univers de la montagne où tout est isolement, difficulté d'accès, et où la propriété du sol n'existe pas de la même manière qu'ailleurs. Alors, parlons-en avec Loïc Diacon, doctorant à l'UNIL, sur les nouveaux communs de la montagne.
D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des communs, ou qui savent ce que c'est les communs? Je parle vraiment un peu. Je commence par parler du bien commun et des biens communs, parce que c'est pas tout à fait la même chose, et en même temps c'est lié au commun. Et le bien commun, c'est souvent ce qu'on entend dans la philosophie politique, ça remonte à Thomas d'Aquin. C'est une aspiration, un intérêt partagé qui se situe au-delà des intérêts individuels et de l'État. Donc c'est vraiment qu'est-ce que les humains en tant que société se disent qui est le plus important et qu'on veut sauver, sauvegarder, mettre... Enfin, ça peut être tout n'importe quoi en fait. Mais donc le bien commun, cette espèce de... Je sais pas comment expliquer, moi je sais pas trop mon domaine celui-ci, mais c'est une idée de ce qu'on pense être important. Et dans cette lignée du bien commun, on parle aussi des biens communs parce qu'on a certaines choses sur notre planète qu'on considère comme étant des biens communs. Vous entendez souvent parler de l'eau comme bien commun, l'un des plus évidents, mais aussi la santé, les océans, l'Antarctique, les forêts tropicales et aussi les montagnes. Et maintenant, je vais passer au commun et je vous parle des communs au sens qu'on entend un peu pour ceux pour qui on est venu ici. Cette typologie, elle étudie les conditions d'accès et d'usage à une ressource en fonction de deux critères qui sont l'exclusion et la rivalité, j'y reviendrai. Les nouveaux communs, c'est tout ce qui a été créé fin 20e siècle, début 21e siècle. Ça a essentiellement été étudié en milieu urbain, et notamment après la crise de 2008. C'est tous les mouvements spontanés qui ont pris en charge des bâtiments, des théâtres, qui ont créé des tiers-lieux, des écolieux, qui sont mis à faire des jardins partagés, et surtout en ville. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça a été étudié surtout en ville.
Sur des tables de pique-nique, devant la cabane, les facilitateurs ont disposé des défis.
des planches de leur fabrication qui illustrent chacune un enjeu majeur de la montagne, de ses écosystèmes, de ses usages. Avec à chaque fois des données scientifiques, mais aussi des exemples d'initiatives pour y répondre. Les participants se pressent autour des tables, ils ont 5 minutes pour s'acculturer avec les thèmes, poser des questions, comprendre les besoins.
Pousser à réfléchir à ton environnement autour de toi, quoi.
Mais médiateur gardien, tu vois, le rôle oui, ça, ouais. Ça interroge le rôle du gardien.
Donc là, on est dans le moment où tout le monde discute des défis, un peu librement. Il y a 5 défis, 5 tables, 5 facilitateurs. Et chacun note des idées sur des post-it.
Effectivement. En tout cas, le rôle du gardien doit évoluer vers autre chose pour servir autre chose que, comment dire, une logistique de cabane. Enfin, ça, c'est mon avis.
Pour le gardien, mais après, c'est vrai que...
C'est une idée que j'avais déjà montée avec moi, mais qui revient pas mal sur ce défi-là et sur le défi numéro 1. C'est comment aider un gardien à déléguer, automatiser ou systématiser des tâches qui lui posent difficulté. Et donc, je commençais à lister, que ce soit l'accueil, avec peut-être des règles plus clairement affichées, ou à la réservation, un petit système de questionnaire ou d'induction. Je commençais à lister des axes.
On a invité des gens qui ne se connaissent pas, pour la plupart, ou ceux qui se connaissent font le même métier. Et l'idée, c'est qu'on fasse 5 équipes avec des gens qui font un métier différent, donc qui ne se connaissent pas. Et donc, on les a inspirés. Il y a eu des interventions. On a parlé des communs, on a parlé des formats, etc. On a parlé de refuge sentinelle. Okay. Et donc là, l'idée, c'est que très rapidement, ils s'imprègnent de ces défis et puis qu'ils rentrent dans une première phase d'idéation, c'est-à-dire de brainstorming individuel en disant, bah, moi, voilà, sur ce défi, je pourrais avoir envie de résoudre tel problème ou au contraire, j'ai déjà une idée. Après l'idée... On va leur proposer, pour ceux qui sont un peu sur deux, sur cette idée, de pitcher l'idée. Donc en une minute, de nous dire, voilà, j'ai pensé à cette solution. Et mon profil, c'est un profil d'expert des communs. Et il va me falloir 4 autres profils pour constituer une équipe. Qui parmi vous voudrait me rejoindre sur cette idée ?
En fait, on a mis des idées là-dessus et puis après, vous pouvez vous en emparer et faire quelque chose avec.
Donc, ici, c'est la cabane Girouette. Il y a une complémentarité dans le titre de la cabane Girouette et ensuite, ce sous-titre, c'est pas la Girouette qui tourne, c'est le vent. C'est-à-dire que c'est pas le lieu qui seul évolue, mais c'est aussi ce qu'on vient chercher dans ce lieu, les usages. La cabane ou le refuge devient un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui s'ouvre à des activités, à tout un tas de fonctions qui jusqu'alors n'étaient pas ancrées ici. Traditionnellement, le refuge, c'était le point d'arrêt sur son itinéraire vers la haute montagne. On en fait désormais un lieu de production artistique, de formation. Des classes sont accueillies, ou même des lieux de travail, des lieux de coworking. Et du coup, ces deux tendances, entre l'ouverture de lieux avec de nouvelles fonctions qui existent ou qui préexistaient ailleurs et qui s'ancrent en refuge, et puis la multiplication des usages viennent percuter le modèle historique du refuge. Voilà, ça vous a parlé.
Pendant que les groupes découvrent les défis, certaines thématiques émergent, et l'on parle beaucoup des différents usagers de la montagne. On discute de l'essor d'un tourisme nouveau. C'est à ce moment-là que je fais la connaissance de Philippe. Il est enseignant-chercheur émérite en géographie culturelle à l'Université Grenoble-Alpes. Dans ce travail sur les communs de la montagne, j'ai voulu lui demander si lui voyait le tourisme comme une opportunité ou comme un danger.
C'est pas forcément simple d'aborder le tourisme comme danger, parce qu'il faut se souvenir que dans les zones de montagne, on a considéré le tourisme comme une ressource, comme un moyen de sauver, entre guillemets, la montagne et ses habitants de la désertification. Ça remonte en gros au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et à la période de croissance des Trente Glorieuses. Et c'est depuis la fin des années 1980 qu'on se met à avoir un regard réflexif et critique sur les limites du modèle de développement qu'on a élaboré autour du tourisme, qui tend à, en quelque sorte, prendre toute la place dans la culture, l'identité, l'économie... et la vie de la montagne.
Et sur les dernières années, vraiment les post-Covid, on voit une recrudescence d'usagers de la montagne avec des comportements un peu différents d'avant. Tu as des données là-dessus ?
Alors, en effet, il y a eu une sorte d'élan et de ruée vers les espaces de nature, et notamment ceux qui sont les plus proches des villes de montagne en l'occurrence. Et on a effectivement pu voir de nouveaux publics aborder la montagne, et notamment des publics plus populaires qu'à l'habitude. Et ça a suscité beaucoup de réactions, parfois un petit peu élitistes, de la part d'acteurs ou d'habitants de la montagne qui considéraient que ces gens-là ne venaient pas d'habitude et n'avaient rien à faire en montagne. Donc il y a quand même un peu de comment est-ce qu'on pourrait dire, d'exclusion sociale à l'œuvre. Hein. La montagne est habituellement fréquentée par les classes privilégiées qui viennent pratiquer leurs loisirs favoris à l'abri des turbulences urbaines, dans un entre-soi qui est quand même assez, assez fort. Donc d'un coup, devoir ouvrir les portes de la montagne à des publics qui en étaient éloignés, comme on dit, ça a suscité ce genre de réaction. Ils n'ont pas les codes.
Et si on met ça en regard avec le changement climatique et le fait que certaines zones montagneuses seront moins enneigées qu'elles ne l'étaient, quel est ton point de vue à toi sur le fait de créer de nouvelles infrastructures pour accueillir des nouvelles formes de tourisme ou en tout cas des nouvelles formes d'usagers dans la montagne? Est-ce que tu y es favorable ou défavorable?
Alors c'est un vaste... On a souvent des réponses aménagistes, c'est-à-dire créer de nouvelles infrastructures, de nouvelles remontées mécaniques, de nouvelles retenues collinaires pour fabriquer de la neige de culture, pour aborder la question de l'avenir de la montagne. Ben, il est clair qu'il faudrait sortir de cette dérive aménagiste pour... engager vraiment des réponses en termes d'infrastructures de transport de type ferroviaire, parce qu'il y a très peu de vallées, à part la Tarentaise, qui sont vraiment bien desservies par le ferroviaire, à la différence de la Suisse. Aujourd'hui, ce dont on prend conscience, c'est que la montée en confort, c'est de l'énergie, c'est de l'eau, et que au vu des évolutions climatiques, on va avoir de plus en plus de problèmes à maintenir ce niveau de confort et de service, parce qu'on n'arrivera pas à produire de l'énergie, à mettre de l'eau à disposition de tous les publics. Donc les refuges sont aujourd'hui un peu à la croisée des chemins, et ils sont sommés de devenir plus sobres, mais ça va croiser la trajectoire d'une demande qui est de plus en plus exigeante en termes de service et de confort.
Merci pour ce petit point.
Sur l'écriture artistique, séjour artisanal, apprentissage d'un savoir-faire. Il y a l'école de la montagne qui a émergé. Et il y a aussi des questions d'activisme politique. Si la cabane, c'est vraiment un lieu de déconnecter où t'as pas de réseau, où t'as pas de.
Oui.
Qui est un peu caché. Bah, c'est un peu l'idée du refuge maquis.
D'accord, super.
Oui, globalement, toutes les idées, elles tournent autour d'activités diversifiées au refuge.
C'est intéressant la notion de séjour artisanal, je trouve, avec la pratique du savoir-faire. On parlait ce matin avec Michel justement de ce que tu peux ramener dans la plaine en fait, de ton expérience au refuge.
Ah ouais.
Et en fait, ça fonctionne. C'est rigolo parce que ça fonctionne aussi bien avec l'activisme politique. C'est-à-dire que tu as besoin d'un espace peut-être un peu préservé pour avoir un certain type de, à la fois de réflexion, d'activité, et puis t'inspirer. Finalement, dans ce gigantisme, c'est pas si évident d'avoir une pensée humaine quelque part, et que tu as besoin pour la structurer d'être dans des conditions particulières. Enfin, moi, c'est ce que j'entends derrière le séjour artisanal, au-delà justement de la notion de savoir-faire qu'on peut mettre derrière l'artisanat. Tu vois, c'est pour ça que l'activisme politique est ça. Moi, je trouve que ça résonne.
Il y en a un autre qui est la réinsertion sociale. Et c'était l'idée d'aller chercher des personnes déconnectées du monde en bas.
Ouais.
Et pour leur faire découvrir le lieu du refuge et du coup de nouvelles...
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire là avec les post-it?
Ce que je viens de faire, c'est que j'ai essayé de regrouper les idées en fonction de grandes familles d'idées qui s'expriment, pour ensuite que ça parle au plus grand nombre et que les gens puissent rebondir, potentiellement récupérer des idées qu'ils avaient émises mais qui étaient un petit peu floues et venir les recoller sur ces groupes ou sur ces familles d'idées qui viennent d'apparaître.
Donc l'idée et le prototype qui va en découler peut répondre de manière très partielle à plusieurs défis.
Exactement, tout à fait.
Très bien, merci pour l'explication.
De rien.
Enfin, je suis en train de prendre des notes en vrai sur qu'est-ce qui est commoning, qu'est-ce qui l'est pas, et cabane gardée, cabane non gardée. Pour moi, enfin, dès qu'il y a des processus de marchandisation, de relations marchandes, de salariat, typiquement impliquer les gens pour leur faire des choses en baissant le tarif, on reste dans de la relation marchande.
Ça t'intéresse moins?
C'est pas que c'est... Ouais, c'est... je suis pas sûr qu'on soit dans du commoning, tout à fait. C'est un peu mon avis, c'est un peu moi qui suis très anticapitaliste sur certains points. Mais je trouve que ça s'apparente plus à du travail dissimulé d'une certaine manière, dont certains pourraient profiter, ce qui est déjà le cas dans plein d'endroits, le woofing a ce problème-là, typiquement. Et ça, je m'en méfie, par exemple. Je préfère... Enfin, tout à l'heure, j'étais en train de me dire que c'est vraiment on-off, et quand tu passes en mode commun, tu passes vraiment avec des gardiens bénévoles et des gens qui s'impliquent. Il n'y a plus de notion de psy au sens, parce qu'ici, tu vois, les gens qui viennent, ils vont quand même payer leur nuit, c'est normal, parce qu'ils bénéficient du truc. Mais là où c'est des gardiens bénévoles et qu'il n'y a pas de salaire, j'aurais du mal à créer... Ça créerait une hiérarchie entre les personnes qui viennent. Il y en aurait qui paieraient plus, il y en aurait qui paieraient moins et qui mettent la main à la pâte. Les gens n'ont pas les mêmes moyens. De facto, ceux qui ont de la thune, ils pourraient profiter du refuge full standing, tu vois. Tu recrées une sorte de premium.
Mais c'est juste... On se rabat sur un système où les riches ont le confort et les pauvres en ont moins.
Ce genre de proposition, c'est là où je commence à réfléchir un peu, à ne pas être sûr que ce soit la direction qui serait la plus pertinente. C'est compliqué, hein.
On va voir la suite.
Ouais, c'est tout ce qu'on est qu'au début, c'est work in progress.
Au refuge, enfin, j'y tiens et je veux que ça se passe bien. J'ai ma place aussi. Ce que disait sa reconnaissance, j'ai ma place. Même si je suis pas un cador, que je suis nul en montagne, que je mets 3 heures à monter avec les 1 heure, que je suis pas le profil habituel, mais j'ai ma place et c'est vachement important aussi.
C'est une bonne vision.
Il faut savoir que la cabane de Salena est un peu spéciale en Suisse. Durant ces 10 semaines d'ouverture, de juin à mi-septembre, chaque année, des gardiens bénévoles s'y relaient pour passer une semaine ou deux à accueillir et nourrir les visiteurs et à entretenir ces murs. Ils sont tous et toutes membres du club alpin suisse et très attachés à leur montagne. Et ils ne sont pas payés pour ça. Dans ce lieu singulier, on est au bon endroit pour penser différemment, pour imaginer des possibles. Pour notre séjour, il y a Michel, le préposé à la cabane, ainsi que nos gardiens bénévoles, Dominique et Jacques.
Comment ça va?
Ça va et vous? Je voulais juste demander à un vrai gardien de cabane, c'est quoi les missions d'un gardien de cabane?
Tu es tombé sur le bon, alors là vraiment tu es tombé sur le bon.
Non, parce que là-bas ça discute beaucoup de changer la vocation, les missions des gardiens de cabane. Du coup, je viens vous voir pour vous demander déjà c'est quoi les vôtres pour l'instant.
Donc la vraie mission, la protection. Il faut protéger simplement une personne qui monte jusqu'ici et puis il faut le dorloter, lui donner à manger, l'accueillir avec un sourire, qu'il mange bien, qu'il dorme bien, qu'il reparte le lendemain sur un bon pied pour avoir une bonne course.
Est-ce qu'il y a des missions aussi peut-être d'information sur les conditions, enfin tout ça, vous le prenez en charge, vous?
Alors, on prend certaines petites choses en charge, mais en fait, on ne prend pas de risque non plus, parce qu'on ne veut pas envoyer quelqu'un... Si on ne connaît pas les conditions météo, si on ne connaît pas les conditions atmosphériques, en fait. Alors, on donne des renseignements, mais on avertit qu'on n'est pas des professionnels.
Et c'est pour ça que souvent, on se renseigne quand le client arrive, le client alpiniste, ou quand on a des téléphones avec les cabanes voisines, on leur demande, mais quelles sont les conditions? Et comme ça, quand on a des téléphones de clients qui se renseignent, on leur dit... Telle et telle cabane nous a dit que ils ont des clients qui passaient bien. Mais comme dit Dom, on doit quand même être très prudent parce que si malheureusement une fois nous diffusions une information qui est fausse, qui n'est pas fondée, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences indirectes parce qu'on a dit que ça passe et en fin de compte ça ne passe pas.
Donc si je résume, c'est hospitalité et sécurité, les mots d'ordre pour les gardiens?
Ou prévention.
Prévention.
Prévention plutôt.
C'est aussi pour des gens comme nous qui n'y connaissons pas grand-chose en fait. Ouais. Juste ça nous intéresse et le refuge devient un lieu outil pour presque s'auto-former collectivement. Ouais. Quoi.
Moi c'est aussi avec des outils de connaissance à l'intérieur du refuge, des livres, des cartes.
Je rappelle la règle, hein, quand on rejoint son équipe, on rebrasse l'idée, on trouve un autre nom, on amène ses propres contenus, hein, on ne se met pas à ton service, Manon, pour résoudre ton problème. On va bien constituer une équipe qui, à partir de cette première proposition, va fabriquer un prototype. Hein. Donc je dis ça parce qu'effectivement, il va falloir qu'on se positionne avec ses propres idées.
Penser, repenser, questionner, comprendre, apprendre, désapprendre, les discussions vont bon train au sein du Refuge Remix. Mais pour remplir la mission, il nous faudra faire produire, fabriquer avec nos mains plutôt qu'avec nos grandes idées. Proposer une réponse tangible aux défis des communs de la montagne. Un prototype fait avec les matériaux à disposition, du bois, du carton, des pierres, des végétaux. Et cette mission commence dès maintenant.
Alors moi j'ai un projet qui s'appelle Casquette. Après Gomette, c'est Casquette. Je préfère Gomette. Voilà, ça répond au défi numéro 1, hein, une maison commune. Ce qu'on veut faire, c'est que les hôtes de la cabane ne soient pas que des clients, mais aussi des participants. Et on a différentes questions qui se sont posées. C'est comment est-ce qu'on donne une légitimité à un travail qu'on va faire, comment on donne la reconnaissance à ce travail. Et finalement, on a trouvé une solution extrêmement simple. C'est que pour rentrer dans la cabane, on est obligé de prendre une casquette. Et sur cette casquette, il y a le rôle que l'on va faire. Alors moi, je vais éplucher les pommes de terre. Moi, je vais m'occuper d'aller rallumer la génératrice quand il n'y a plus de lumière. Voilà. Donc on rend les règles implicites, explicites.
Pour l'instant, c'est un titre extrêmement large et flou qui méritera d'être vraiment retravaillé. Mais... je l'ai appelé les médiateurs de la montagne. L'idée, c'était de comment est-ce qu'on va conduire au changement en impliquant les différents acteurs de la montagne. Et l'idée, c'est de tisser des liens entre les acteurs de la montagne. Donc, ça va être les gardiens, les professionnels de la montagne, les bergers, les chasseurs, voilà, toutes ces personnes-là. Et les publics. Et de rendre ces publics acteurs. Donc, soit en leur permettant de vivre un bout de vie de ces acteurs-là, soit en participant, par exemple, à des programmes de sciences participatives, donc collecter des données pour que ça serve à des projets scientifiques de meilleure connaissance aussi de l'environnement, des écosystèmes de montagne, et les rendre acteurs du changement et de la transition. Voilà.
Merci beaucoup.
L'idée de ce projet, c'est d'aller en cabane pour, avec et dans le ciel nocturne. Ça part l'idée que la nuit noire est un commun, une forme de commun, qui a un droit à la nuit et au ciel, qui est partagé dans une forme de déconnexion. L'idée, c'est que la cabane, le refuge, c'est aussi un lieu outil, où même sans être professionnel ou sans avoir des conférenciers internationaux qui viennent, les gens que ça intéresse peut-être après le dîner ou au moment où on part en course dans un ciel avec un bon clair de lune, ben on va ensemble regarder ce ciel-là et essayer d'avoir dans le refuge des outils qui vont nous aider à ça. Donc ce qu'on peut construire... Alors, c'est très simple, on va construire un télescope, une carte, des parcours, un planisphère en pierre, et ensuite un amphi céleste un peu plus haut sur la colline. Voilà.
Ce qui est important à partir de maintenant, c'est que pour boire l'apéro, il faut constituer une équipe. Pour constituer l'équipe et boire l'apéro, il faut avoir une table, il faut payer bingo autour d'un projet. Il faut avoir 4 compétences. Ces 4 compétences, vous les notez. Vous avez 4 compétences, 4 prénoms sur votre fiche. Vous rajoutez un facilitateur, vous criez bingo. Et l'affaire est faite.
On a déjà 5 sur 6. On n'est plus que la dernière personne.
Quelqu'un veut aller sur Mars?
Un 4 qui veut aller sur Mars? Il n'y a pas de carte.
C'est quel type de métier, les 4?
Je sais pas ce que ça veut dire, accéder au commun.
Okay.
Lui, il peut accéder et faire garantir, c'est ça. Loïc, il peut tout faire. Mais voilà, il est là. Il nous manque une
personne. Tout à l'heure, je discutais avec Philippe, je crois, là-bas, du fait que, il y a une recrudescence d'usagers de la montagne et que ça pose aussi d'autres problèmes. Donc, est-ce qu'on veut en ramener encore plus?
Si c'est raccroché à une fonction sanitaire et sociale, ça prend une autre dimension.
C'est vrai.
À mon avis. Dans un groupe.
Vas-y.
Ils ont gagné l'apéro, chat.
Ok, on va faire monter les enchères. Vous avez tout, vous.
Ah, vous avez beaucoup de trois.
Et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Ouais, parce que.
Bingo!
Bravo. On vous laisse vous installer à table et on va avoir des discussions. Au sein des équipes encore.
Et vous pouvez faire quelques aménagements.
Donc.
Christophe, je peux te. La discussion qui a eu lieu là autour des pitchs pose la question de c'est quoi un prototype et jusqu'où on peut aller dans la création d'un prototype pendant un refuge remix.
Donc ça va être l'objet du début de la matinée demain. de les laisser partir sur l'idéation, donc de se regrouper pour identifier ce qu'elles ont vraiment envie de faire ensemble. Et puis c'est là qu'on arrive avec les ressources et qu'on leur fait découvrir finalement l'ambition du prototype concret. Mais on ne l'a pas vraiment dit aux équipes encore, parce que ça fait beaucoup de choses aujourd'hui à assimiler. Le minimum vital d'un prototype, c'est faire vivre une expérience. Donc ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une mise en situation, ça peut être un échange, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire une partie de l'expérience que l'on vit par le truchement d'un objet, par exemple, qui va représenter, qui va symboliser l'expérience.
Là, en fait, elles ont une idée globale, mais elles n'ont pas encore en tête ce qu'elles vont prototyper.
Pas du tout.
Parce qu'il y en a qui parlent de changer les usages d'un refuge, mais ça veut pas. Enfin, qu'est-ce qu'elles vont fabriquer demain ? On ne sait pas encore.
Bah, demain, elles vont nous proposer de faire une borne interactive. On va leur dire non, il n'est pas question de faire une borne interactive. Et puis, petit à petit, elles vont nous inventer un truc extraordinaire qui sera réellement, physiquement, le reflet de leur idée, qui va nous permettre, par un petit bout, de raconter l'histoire par l'action.
Et pourquoi pas la borne interactive, du coup ? C'est pas une expérience ?
La borne interactive, c'est une blague qu'on a dans les remixes, en fait, parce que la borne interactive, c'est un, toujours en panne, deux, mono-utilisateur, et toujours un goulet d'étranglement, c'est ce qu'on voit dans les musées.
Oui, puis ça veut tout et rien dire, on va faire une borne interactive, ça peut être génial comme nul.
Exactement, exactement.
Très bien, j'ai compris.
Jour 2. Les choucas volent en nuée et chantent au-dessus de la cabane. Hier soir, les groupes se sont formés autour des 5 pitchs qui ont remporté la plus forte adhésion. Chaque groupe réunit des chercheurs et des makers, ceux qui ont le savoir et ceux qui ont le savoir-faire.
Une petite plénière très courte ce matin. Toute la matinée va être consacrée à avancer sur les projets que vous nous avez proposés hier, sur lesquels vous vous êtes rencontrés, regroupés, sur lesquels vous avez discuté. Donc ce matin, un travail de production avec un premier objectif qui va être de vous mettre d'accord en équipe sur ce sur quoi vous allez travailler, commencer à faire converger les idées. Et déjà, dès la matinée, puisqu'on est vraiment sur un temps très très court, se poser la question de qu'est-ce qu'on va montrer de notre idée. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout faire, on ne va pas développer le projet complet, mais on va en développer chacune des étapes d'une section, de sorte que demain, on puisse faire vivre une expérience à tout le monde. Donc Soriana, on ne va pas la résumer au carton, et je te laisse dire tout ce que tu peux faire. On est vraiment dans une approche de design.
Alors dans le petit atelier, le prototypage que vous pouvez trouver, il y a du carton effectivement, donc là, petit objet, maquette, écrito, support de communication, mais après il y a aussi du papier, donc on peut imaginer faire des petites histoires, j'ai amené un peu de tissu, du matériel de couture, il y a du métal à embosser, donc on peut faire aussi des formes assez cool, il y a de la ficelle, après on peut utiliser les pierres, enfin voilà, on peut faire plein de choses avec nos deux mains. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées, voir comment on peut réaliser ça.
Info logistique, donc on mangera à 12h30, pétante. On s'est engagé au fond de Jacques.
Et la troisième chose serait un dépliant avec un protocole ou comment faire.
Ok, qu'on peut presque bouger en fait, emmener si on va dehors.
Voilà, emmener si on va dehors, mais juste pour un peu s'il n'y a pas de...
Il est 9h30, pardon. Et les groupes sont déjà au travail.
Le plombier qui vient 8 jours, c'est pas un autre, c'est un là, il vient avec ses compétences.
Donc, mais après, on peut faire deux trucs différents, on peut mettre une case haute et une case compétences spécifiques.
Oui, tout à fait.
Pour l'entretien.
Expert,
toujours
le même sentier, mais qui peut-être passer à côté de plein de choses parce qu'il n'a jamais pris le temps de découvrir quelque chose.
En tout cas, c'est sympa comme principe d'avoir peut-être une espèce de méga carte qui serait accrochée dans le refuge à un endroit, un truc qui faudrait que ce soit très, très beau et tout ça. Et du coup, que ce soit un peu ludique, quoi.
Moi, j'ai une coloc, elle a des crocs, ça tape du pied, les crocs, c'est salut, c'est sur un domaine.
Vous en êtes où et en quoi consiste le projet de ton groupe?
Là, on en est qu'on va créer des personas
types de différents sportifs qui seraient susceptibles d'être présents là dans une cabane et là par exemple à Salénaise, et qu'à partir des différents profils de sportifs qu'on puisse continuer à réfléchir de comment transformer la question de la performance pour que ce soit plus forcément quelque chose telle qu'elle est définie dans le capitalisme, qui te pousse à toujours aller plus loin le dernier sommet, plus loin tout ça. Mais de transformer cette idée-là plutôt en question de robustesse plus que de performance et d'avoir une meilleure gestion des ressources et de l'environnement et physique.
C'est ça la robustesse ?
Pour moi, la robustesse, c'est une espèce de force immuable, ou pas forcément immuable, mais en tout cas quelque chose que tu arrives à alimenter et qui est ancré.
Toi, c'est ton premier refuge remix ?
Oui, c'est mon premier refuge remix. J'avais participé à des muséomix plusieurs fois, mais là, c'est la première fois que je participe à un événement comme ça.
Et comment tu sens la dynamique de groupe, le dialogue ? Est-ce que les exercices proposés permettent réellement de débloquer la créativité ?
Alors, moi, je dirais plus que les exercices proposés, c'est le fait de mélanger des profils vraiment variés. En fait, l'intelligence collective, à chaque fois, moi, ça m'étonne de voir à quelle vitesse on peut aller ensemble. On a souvent tendance à dire que quand on travaille ensemble, on met plus de temps. Mais là, j'ai l'impression que les idées émergent extrêmement rapidement. Et ça m'impressionne toujours de voir ça et de voir à quel point, quand on arrive à mélanger les profils, ce qui est malheureusement peu le cas, je trouve, dans notre société actuelle, on arrive à aller beaucoup plus loin et à être beaucoup plus innovant. Après, dans la concrétisation, c'est toujours difficile de savoir comment est-ce que ça pourrait se concrétiser dans la réalité, parce qu'après, il y a d'autres enjeux, notamment financiers, qui rentrent en compte. Mais en tout cas, dans le côté émergence des idées, je trouve que c'est incroyable, quoi.
Et du coup, avec ton groupe, vous avez décidé de travailler sur quoi ?
On a décidé de travailler sur un territoire beaucoup plus vaste que simplement la cabane, avec en point central la cabane, mais vraiment d'élargir beaucoup plus large, pour essayer de mettre en avant et valoriser l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce milieu. Et donc, à travers cette idée, on a décidé de créer un grand jeu, un mélange entre une sorte de jeu de plateau et un jeu de rôle, avec une cartographie justement de ce territoire, et où on aurait plusieurs personnages qui représenteraient donc les différents acteurs du territoire, qui auraient des interactions entre eux, positives ou négatives, hein, qui s'influencent en fait les uns les autres, et de voir comment est-ce que aussi le dérèglement climatique en cours a un impact sur leur travail, sur leur quotidien. Et l'idée, c'est d'avoir quand même un lien avec la réalité, donc sortir à un moment donné du jeu de plateau et proposer des espèces de petites missions, des petits défis aux gens pour qu'ils aillent rencontrer les acteurs directement sur les territoires. Par exemple, de dire, bon, bah, alors là, ce qu'on vous propose, si vous relevez le défi, allez faire 2 jours de woofing chez l'alpagiste qui travaille dans le coin, et pour pouvoir vraiment se plonger au cœur de ces métiers-là, etc., etc.
Ok, super. Je te remercie.
De rien.
À tout à l'heure.
En ce deuxième jour de Refuge Remix, la tension monte silencieusement alors que deux équipes se disputent une idée de prototype. Des marqueurs vestimentaires pour répartir les tâches de la cabane. D'un côté, par le biais de casquettes, de l'autre, grâce à des pins de Crocs. Heureusement, les organisateurs sont là pour pacifier le travail.
Il va falloir commander plus de pins.
C'est pas un problème de fabrication.
Là, c'est la confrontation entre les deux groupes qui ont le projet similaire.
C'est la guerre, c'est ça ?
Ouais, c'est ici que ça va plutôt tirer.
Regarde les billets qui commencent à s'échanger sous la table.
Ouais.
L'équipe casquette. Et de l'autre côté, vous avez un nom à votre équipe ?
Non, mais pas encore de nom.
Bah, les Crocs.
En fait, on cherchait un moyen de répartir les rôles. On est allé sur cette idée de tableau où on pouvait s'inscrire dans différentes catégories de façon de participer aux tâches. Et après, on s'est dit, un truc visuel, on pouvait mettre des petits pins sur les Crocs. Quoi. Ouais.
Tableau, pins. Ok.
Comment on organise finalement quelque chose qui peut se faire de manière impromptue et qui consiste à exploiter une opportunité. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des gens qui viennent. Moi, parfois, j'arrive quelque part et puis je me dis, tiens, ce truc-là, ça serait chez moi. Il y a longtemps que je serais allé chercher la caisse à outils pour faire le truc. Pourquoi tu ne le fais pas dans un refuge ? Parce que ce n'est pas ton rôle, parce qu'on ne te l'a pas assigné, etc. Donc je trouve que
là-dessus, effectivement, vous avez quelque chose, mais dans les deux cas, hein, qui est pertinent. Il faut juste voir comment vous vous dissociez suffisamment pour ne pas être sur le même plat
de
bande.
C'est-à-dire sortir les gens d'une posture de consommateur, de client qui mettent les pieds sous la table et demandent le Wi-Fi et la douche chaude.
Et je pensais à un autre projet, c'est le principe de la, tu sais, des listes dans les, on fait ça beaucoup dans les immeubles où on dit, bah moi j'ai une perceuse, toi t'as un appareil raclette, etc. On met des choses à disposition de tout le monde. Et c'est-à-dire que tu prends le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que plutôt que ce soit le gardien qui pose la question de j'ai besoin de ça, que ce soit aussi toi qui puisse arriver en posant ton bijou sur ton croc en disant, bah moi quelque part j'ai la compétence pour resserrer les poignets, quoi. Donc si vous avez besoin, je peux le faire.
Et moi j'ai une question, c'est quel est le rôle du gardien, c'est-à-dire comment il est régulateur de ça ou interlocuteur?
Et bah, c'est un peu ce qu'on se disait quand on brainstormait là, c'est finalement on l'a un peu enlevé de l'équation. Pourtant il y a clairement besoin d'un coordinateur, et là on n'est pas encore complètement sûr de quel est son rôle. Il n'y avait pas la notion de le remplacer complètement, mais par contre très clairement on l'a pas beaucoup intégré.
Moi ce que je vois, c'est que vous, c'est vraiment sur du co-gardiennage, et c'est très effectivement ancré, structuré.
Oui.
Alors que nous, on dérivait un peu plus sur l'appel à projet, tiers-lieu, ouvrir les expériences.
Ouais.
Donc s'il y avait une divergence à faire, elle se ferait peut-être un petit peu vers la gestion vraiment orientée.
Interne.
Gestion interne de refuge. Ouais,
exact.
Et nous, on pourrait peut-être se concentrer sur la partie projet, tiers-lieu. Parce que finalement, la gestion du refuge, c'était une de nos cases.
Nous, ça ne nous pose pas de problème de nous concentrer là-dessus.
Ouais.
Vraiment, c'est le point où on n'aimerait pas s'éloigner.
Ouais.
Ouais. Et finalement, je pense qu'on peut dire, OK, on ne va pas prendre cet aspect où nous, l'autre vient dire, j'ai ça comme compétence, ça c'est votre... Et nous, on reste sur le côté gardien qui dirige.
Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut vous laisser revenir vers vos équipes pour faire la restitution de ça, avec une consigne qui est assez rapidement, notamment en début d'après-midi, on le redira, mais de ne pas travailler tous ensemble sur la même chose, de commencer à vous dispatcher un peu et commencer à vous projeter sur la partie que vous allez prototyper pour que vous puissiez commencer la phase prototypage, qu'est-ce qu'on veut montrer concrètement.
Le drame est évité et chaque groupe peut retourner à la conception de son prototype sans crainte du plagiat ou de l'espionnage industriel. Mais quand on pense prototypage, on imagine des prouesses de technologie. Au Refuge Remix, les prototypes prennent parfois des tournures très low-tech, voire no-tech.
Non mais c'était bien, dans l'idée c'était très bien.
Non, bien, c'est bien de les mettre longues en fait, comme ça, avec les... Okay.
Donc en gros là c'est un cosmodrome.
Le cosmodrome, c'est un petit amphithéâtre extérieur pour une expérience d'observation du ciel nocturne qui est collective, non assistée, à part par des petits documents qu'on trouvera au Refuge.
Le départ de l'expérience, en fait, il se ferait avant d'arriver au refuge, avec des petites étoiles qui parsèmeraient le chemin, mais juste pour ouvrir l'imaginaire et questionner. Après, il va se passer un truc dans le refuge et on va retrouver cette
étoile. Bah, je pense que là, il faut mettre une des très grosses pierres.
Ça peut être un coin.
Non, mais elle n'est pas assez grosse. Vraiment, les très grosses pierres qui passent dedans. Par exemple, la méga.
Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, quand même.
La méga, il y en a d'autres. Peut-être que la méga, on va la laisser pour son coin.
Moi, je voulais mettre celle-là. Pardon. On peut mettre la porte?
Ici, début du prototypage pour les pierres des étoiles.
Ça, tu veux le coller ou tu veux juste le mettre dans le refuge?
Alors, bah oui, celle-là, ça serait pour mettre dans le refuge. Voilà. Quoi. Donc après, mais il faut que je les colle quelque part. Quoi, tu
et
vois,
après, tu sais, tu peux faire un petit trou.
Je fais un petit trou.
Tu fais un petit trou et tu peux les afficher.
Ouais, toi, tu les vois en relief. Moi, je voulais faire juste
mais tu peux aussi. Après, c'est juste... c'est la possibilité du matériel, en fait, qui te donne ça.
Si tu veux juste peut-être que je vais faire du plus simple, quoi, découper après, plier aussi, mais
bah ça, c'est toi
mais
qui
vrai que c'est chouette ça aussi, hein, comme idée, quoi. Ouais, bon, moi je vais voir.
Et après, on va venir mettre une bande de craft.
Je vais peut-être mettre un petit truc noir en haut.
Non, ouais, c'est pas mal. Hein.
Faire un truc propre.
Voilà. On a besoin de toi.
Romanerie.
Ah. Moi j'ai besoin de vous pour couper du.
Bah parfait.
On réfléchit aux couleurs de l'affiche. Parce que le dilemme, c'est que j'aurais aimé faire la montagne super foncée là et le ciel bleu. Et après, rien va ressortir.
Ou la montagne en gris paillettes.
Attends, je te montre ce que j'avais en. J'avais pris une photo l'autre jour quand il faisait super le matin, en se réveillant à 5 heures. Et tu vois, comme ça.
Ah wow.
C'est une photo que j'ai prise en sortant du refuge Giannetti en Italie. Et il était 5h38 du matin. Et en fait, la montagne, on voyait que la silhouette, elle était complètement noire. Et le ciel était d'un bleu très profond, mais avec beaucoup de. Un gradient super beau. Et on voyait un peu l'aube qui commençait. C'était très beau.
Et c'est une super bonne idée, surtout t'as du noir en plus.
On est en train de faire des bijoux crocs.
C'est-à-dire comment ?
Alors vraiment, on s'inspire de tout ce qu'on trouve dehors, ici, tout le matériel qui nous est mis à disposition. Et on essaie de faire quelque chose un peu de ludique. Ouais, pour rendre la chose un peu marrante.
Et à quoi ils vont servir du coup ces bijoux crocs ?
C'est à toi de répondre.
Les bijoux crocs servent à représenter une des tâches qui va être faite, enfin ton rôle dans la cabane. Donc par exemple, là je suis en train de faire le rouleau de papier toilette qui est la tâche vérification qu'il y a assez de rouleaux de PQ dans les toilettes.
Donc si moi je suis un utilisateur de la cabane et qu'il n'y a plus de papier toilette, je peux aller me plaindre à celui qui...
Ah bah non, la personne, elle aura fait sa tâche et il y aura assez de PQ normalement.
Normalement.
Dans l'idée.
Tu peux me faire la liste un peu des différents bijoux ?
Alors, dans les bijoux, on a un caillou qui représente le land art. On a un rouleau de PQ. On a une fleur qui représente l'observation lors de la montée. On a des services qui représentent mettre la table. On a un balai qui représente balayage des pièces communes. On a un bout de bois qui représente la coupe de bois. Je crois que c'est tout pour l'instant, mais il y en aura encore d'autres.
J'ai vu un appareil photo.
Ah oui, l'appareil photo qui représente la tâche time-lapse du glacier. Donc, c'est-à-dire c'est une tâche qui n'a pas besoin d'être faite tous les jours, mais c'est les gens qui peuvent... utiliser l'appareil photo qui est dans la cabane pour aller se mettre au même endroit à chaque fois pour prendre une photo du glacier durant l'année et durant la saison. Quoi.
Ok, intéressant.
Jour 3. Malgré la fatigue, la nuit a été courte pour certains. L'heure du petit déjeuner a parfois servi à finaliser un prototype, passer un dernier coup de peinture, répéter sa présentation. À 10h, la clochette de Christophe retentit une dernière fois dans la cabane de Salena. Elle annonce l'heure de la restitution. Chaque groupe présente aux autres groupes, aux organisateurs, aux gardiens de la cabane, le fruit de sa réflexion et met en situation son prototype.
Et que l'ensemble des dispositifs soit installé à l'intérieur de la cabane, avec les tables rangées, il ne faut plus qu'il y ait d'affaires qui traînent autour, etc. Donc prévoyez vos médiations et organisez les espaces autour, demandez de l'aide si vous avez besoin de bouger les tables et rangez tout ce qui est sur les tables, y compris les affaires, les vêtements, etc. Merci beaucoup.
À 5 minutes des rendus.
Conversation.
Bijoux crocs, bien sûr. Je vous montrerai mes bijoux crocs tout à l'heure. En tout bien, tout honneur. Hein.
D'accord.
Pour le démarrage.
Allez.
Et le premier dispositif, je demande à l'équipe de nous guider. S'il vous plaît.
Ah, c'est nous.
C'est là-bas, c'est dedans.
Eh bien, on vous suit. La parole est à vous.
Merci. Alors, bonjour et bienvenue à Cosmorama. Cosmorama, c'est une expérience, mais aussi un lieu, le Cosmodrome. Alors aujourd'hui, on vous invite tous de vivre cette expérience avec nous, de laisser en bas tous les stress du quotidien et de passer un petit moment à contempler le ciel, étoilé ou pas.
Ici, nous avons créé aussi des outils pour faciliter l'expérience.
Donc, on a d'abord une affiche, en fait, un peu immersive pour vous inspirer.
Puis, il y a eu le refuge coopératif.
Eh ben ça, c'est top, parce que okay. C'est une fonction essentielle du refuge.
Okay.
Alors, quand tu es passé, tu as dû voir un dispositif à l'entrée qui aide à la répartition de toutes ces tâches. Okay. Nous, pour la cuisine, comme c'est un poste un peu plus spécialisé, c'est l'équipe des castors qui s'en occupe. Tu as dû voir. Donc, les castors, on dispense une petite formation, on fait déjà un petit test. Mais si tu as déjà une expérience, ce qui est top, c'est que cette semaine, c'est Paul. Et nous avons un vieux cerf qui est monté d'en bas. Le vieux cerf habite plutôt à une altitude plus modeste. Mais les vieux cerfs sont essentiels parce qu'ils travaillent en amont à rendre possible un refuge coopératif où chacun endosse un rôle, mais ça ne pouvait pas se faire sans une logistique. Et donc, nous avons la chance.
Projet numéro 3, un jeu de plateau baptisé En cabane.
Ces infrastructures, elles sont matérialisées par des petites cartes ici. Et au début du jeu, on va avoir donc deux infrastructures et deux ressources que l'on est capable aussi de produire. Ces ressources, elles sont indiquées ici, donc c'est soit intellectuelles, humaines, financières, alimentaires ou qu'on appelait non-vivantes.
Puis, cabane commune. Le fameux concept de pins de Crocs.
Peut-être, toi, t'es pas un peu influenceuse ?
Oui ! Et ouais, pourquoi pas, j'ai fait de belles photos, je vais aller en raconter aux gens en pleine.
Ça me rend beaucoup service parce que je suis pas du tout un bon communicateur, donc tu seras nettement meilleur.
Nickel, bon ben, voilà, premier bijou Crocs en place !
Grâce à cette manière ludique de distribuer les tâches, ça va baisser mon travail, tout en créant des liens entre les autres et les faire passer, je dirais, de clients à acteurs du fonctionnement de cette cabane. Et ça va leur permettre de comprendre un petit peu mieux les enjeux.
Et enfin, Cababook, le carnet de bord de cabane.
J'ai vu un Cerzinal, Il a expliqué, peut-être vas-tu t'arrêter ici et redescendre ou continuer vers le glacier. Dans l'un et l'autre cas, observe le paysage autour de la cabane. Regarde le glacier. D'année en année, il change, et si ça continue comme ça, il paraît que dans quelques dizaines d'années, il aura disparu. Comment vais-je faire, moi, pour boire lors des étés secs et chauds ? C'est vous, les humains, qui, m'a-t-on dit, bouleverse tout. Dis-moi, toi qui aimes sauter de rocher en rocher comme moi, que peux-tu faire pour m'aider à rester chez moi ? Bon, un peu de politique, mais voilà. Allez, je te souhaite de continuer à te faire plaisir dans ton sport. Simplement, pense un peu à regarder autour de toi et ne m'oublie pas. Peut-être auras-tu trouvé dans ce récit un nouveau regard sur le partage de la vérité
dans tous les refuges que vous visiterez.
Bravo. Merci à toutes, merci à tous. C'était extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi structuré, à ce que les dispositifs soient aussi finalisés. C'est impressionnant. Merci beaucoup, beaucoup, infiniment à Soriana qui a été la cheville ouvrière de tout ce qu'on voit en relief ici. Merci. Et merci particulièrement d'être monté jusqu'ici, puisque les dispositifs vont rester dans la cabane de Salena. Au bon soin de Dominique et de Jacques. Et puis n'hésitez pas à remonter à la cabane avec les amis pour leur faire visiter tout ça. Voilà, donc je crois qu'on peut applaudir tout l'ensemble de l'équipe. Jean, je te laisse le mot.
Et aussi, je voulais aussi remercier les gardiens qui nous ont bien nourris. Donc, je pense que... Merci à Michel, à Jacques, à Dominique.
Après toutes ces étapes de réflexion, de co-construction, pour imaginer les nouveaux usages de la cabane, les remerciements les plus chaleureux vont tout de même à ceux qui la font fonctionner aujourd'hui. Une manière de nous rappeler que le premier des communs dans un refuge reste de partager un bon repas chaud.
Grâce à l'efficacité et à la gentillesse de l'équipe qui garde le refuge, le casse-croûte nous attend à 11h30. Donc on a maintenant un peu plus de 30 minutes pour ranger nos propres affaires, vraiment laisser place nette pour qu'au moment où on commence à casser la croûte à 11h30, tout soit prêt à partir. Donc,
à peine le temps de se congratuler que la pluie qui menace nous rappelle à notre planning. Plus tôt nous serons en bas et plus nos chances de rester au sec sont bonnes. Les prototypes, eux, resteront sur place pour les prochains visiteurs de la cabane. Et puis Frédéric repartira à ses énergies renouvelables, Catherine retournera à ses scénographies, Kylian à ses chasseurs et Chiara à son coaching.
Dépêchez.
Il faut pas trop attendre. Que la
montagne est belle.
Et on fait la photo là, c'est tellement beau.
D'accord, la photo de groupe c'est ici.
Attends, on est là. D'accord.
D'accord.
Non, on va essayer. Christophe. Alors, vous allez devoir vous resserrer un petit peu quand même. Et non, mais il peut y avoir un îlot devant, là, avec des gens, voilà, comme ça.
Alors ça, c'est une chance.
Bon, attention.
C'est qui la photo officielle?
Soleil dans les yeux.
Ébloui.
Bravo.
Est-ce qu'il y aura une vie pour le travail qu'ils ont présenté? Est-ce que les prototypes vivront au-delà? Pour moi, observateur ingénu de ces groupes de travail éphémères, ce n'est pas vraiment la question. J'ai vu dans le design thinking du Refuge Remix l'énergie créative qui naît dans le dialogue, dans la transversalité et dans l'urgence aussi. Refuge Remix, c'est un momentum, un ensemble de conditions, de lieux, de temps, de personnes réunies qui permet l'émergence de solutions. Et je contemple, enthousiaste, tous les enjeux sociétaux qui pourraient bénéficier de réflexions de ce type. Pour la montagne, pour les cabanes suisses, je cultive le fantasme dans lequel les randonneurs mettent des pins à leurs crocs en entrant au refuge, puis partagent leurs dessins de constellations au cosmodrome, ou jouent des rôles de berger ou de scientifique dans une partie de En Cabane. Une image utopique que nous avons partagée à 34, le temps de 72 heures coupées du monde, le temps d'un remix.
La troisième édition du Refuge Remix s'est déroulée du 2 au 4 septembre 2024. Le format a été conçu et animé par Christophe Monet et Célia Bonneligeon. L'événement était organisé par Jean Mitschka, Kylian Anchaud, Mélanie Cliva, Christophe Cliva et Hélène Chanteloup de l'Université de Lausanne, ainsi que Sophie de Rosemont, Marc Langenbach, Philippe Bourdeau et Victor Andrade de l'Université Grenoble-Alpes. L'événement a été réalisé avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche française, le Fonds national suisse, l'Institut de géographie et durabilité et le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne de l'Université de Lausanne, le LabEx Innovation et transition territoriale en montagne et le Laboratoire PACT de l'Université Grenoble-Alpes. Ressources fabrication, Soriana Im. Ressources réalisation sonore, Loïc Mabili. Participants, Séverine Debon, Andrea Di Bernardo, Mathilde Gentil-Fausson, Françoise Kouchner, Catherine Chassin, Félix de Montetti, Céline Ducret, Ella Mono, Chiara Quadranti, Yana Radjiakino, Morane Manon, Margot Roy, Anna Slack, Elodie Blandin, Pierre-Alban Caliès, Véronique Coulonceau, Frédéric Reva, Jean Bertrand, Manon Fournier-Bidot, Léa Clos, Loïc Jacon et Marie Schaffhauser. Merci à nos gardiens et gardiennes bénévoles, Jacques, Dominique et Michel, ainsi qu'à la section du CAS de Neuchâtel. Le podcast a été enregistré et raconté par Loïc Mabili. Il a été monté par Mathilde Tinet et mixé par Julien Attal au studio de création Chiznan. Vous pouvez écouter les capsules audio des prototypes créés dans le cadre de cet atelier ou encore parcourir la galerie de photos du séjour sur les sites internet des projets Utopstour et Refuge Sentinelle.